Nous persistons dans notre lecture de l'évangile de Matthieu, on va finir par arriver à la fin. Au chapitre 22, les versets 15 à 22. Les pharisiens allèrent tenir conseil pour décider comment piéger Jésus par une question. Ils envoyèrent ensuite quelques-uns de leurs disciples et quelques partisans d'Hérode dire à Jésus: « Maître, nous savons que tu es vrai. Tu enseignes en toute vérité le chemin qui plaît à Dieu. Tu n'as peur de personne et tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César ?» Mais Jésus connaissait leurs mauvaises intentions. Il leur dit: « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent et Jésus leur demanda: « Cette image et cette inscription, de qui sont-elles ?»« De César, » répondirent-ils. Alors Jésus leur dit: « Ce qui est à César, rendez-le à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Quand ils entendirent cette réponse, ils furent remplis d'étonnement. Ils le laissèrent et s'en allèrent. Vous savez bien que quand on doit choisir un sujet de conversation qui fâche, il y a le choix. Il y a toujours le choix. D'ailleurs, dans les repas de famille, vous l'avez peut-être remarqué, il y a toujours quelqu'un qui trouve un bon sujet pour agacer tout le monde entre l'entrée chaude et le trou normand. Parmi toutes les raisons d'en venir aux mains avant le dessert et le pousse-café, il y a l'argent, bien entendu. Là-dessus, chacun y va de son petit couplet. Les tonalités diffèrent d'ailleurs. Vous avez l'argent qui corrompt et salit tout, la jalousie de ceux qui en manquent, le mépris de ceux qui en ont pas mal, etc., etc. Vous avez toutes les nuances, bien sûr. Vous compléterez la liste. Nous savons bien, nous, toute la nécessité de cet argent. S'il n'était pas nécessaire, nous n'en parlerions pas autant, y compris dans nos églises. Comment nos projets prendraient-ils forme sans en avoir assez pour ses projets? Il faut bien lui reconnaître, à cet argent, le statut de carburant, problématique, aussi délicat à manier peut-être qu'un produit inflammable, mais nécessaire. Dans le cas de notre texte du jour, l'argent aurait plutôt un autre rôle, celui de moyen pour asseoir, voire faire perdurer ou légitimer une forme de pouvoir. Finalement, notre soi-disant modernité n'a rien inventé. Le besoin de se trouver des idées généreuses pour donner un peu de vertu ou un surcroît de vertu à l'argent, c'est vieux comme le monde. Ce n'est pas une de nos inventions. Manifestement, les interlocuteurs de Jésus avaient aussi un peu cette idée derrière la tête. Les autorités religieuses et les gens de pouvoir sont là. Ça commence par les pharisiens et on nous dit qu'aussi les hérodiens, les partisans d'Hérode sont là. Ils se mettent ensemble pour essayer de trouver des valeurs morales à leur propre conception de l'argent ou la propre utilisation qu'ils font de cet argent qu'ils prennent à d'autres, puisqu'ils sont, ils perçoivent. Hein. Ils essaient, mais en pure perte. Alors même qu'ils sont loin d'être d'accord, tout de même, les deux, là, les deux parties, sur des choses essentielles. Hein. Les hérodiens sont complices des Romains, les pharisiens les détestent, mais consentent à leur présence dans la mesure où c'est une punition divine. S'ils devaient les uns et les autres former des partis politiques à partir de leurs idées de base, c'est tout à fait certain, ils ne seraient pas dans le même. Ce qui importe ici, c'est leur jonction momentanée, la collusion entre pouvoir et religion, le trône et l'autel, comme on dit. On se souvient de l'avertissement de Jésus dans le même évangile de Matthieu, au tout début, alors qu'il n'est entouré que de ses disciples. Au moment du sermon sur la montagne, en Matthieu 6, « On ne peut servir à la fois Dieu et Mammon ». C'est un peu comme s'il avait, dans son programme, anticipé cet entretien qui viendrait avec ce genre de personnage tôt ou tard. Hein. Il était prévenu, et eux aussi. On pourrait avancer, Bible en main et sérieusement, que l'homme a reçu en héritage un bien considérable, avec la création et que sa vocation sur Terre, c'est la Genèse qui l'affirme, fait de lui un gérant qu'on espère scrupuleux et respectueux de ce qu'on lui confie. Il serait le mieux placé pour faire fructifier et prendre soin d'un héritage. Mais les auteurs bibliques n'étaient pas des niais. Et ils ont bien vu, longtemps avant tout le monde, que ça n'était pas le cas et ont proposé une autre vision des choses. Le récit de la chute qui suit immédiatement celui de la création de l'homme se charge de nous déniaiser, nous, si c'était nécessaire, au sujet de nos capacités à gérer un trésor et d'en prendre soin. En réalité, nous sommes, si on les suit, avides, envieux, accapareurs, négligents et violents. Le tableau n'est pas réjouissant, mais le plaisir ou le déplaisir que nous cause éventuellement ce reflet de miroir n'a absolument pas préoccupé les auteurs bibliques. Ils s'en fichaient. Seul importait pour eux la vérité de ce reflet. Eh bien, il va falloir faire avec. La vérité, c'est que nous avons du mal à savoir ce qui a de la valeur. Et les différentes monnaies que nous nous sommes données, billets ou pièces, aujourd'hui c'est même immatériel, les différentes monnaies du monde, nous le savons, ne sont qu'un artifice pour permettre entre nous, c'est là-dessus que se fondent les économies, une confiance relative et relativement stable, relativement durable entre nous. C'est le sens du mot fiduciaire, d'ailleurs, qui vient de la même racine fides que confiance ou fiançaille. C'est fait pour que ça dure longtemps, mais il arrive, ça rompe. Voilà. Nous le savons bien, les valeurs, les monnaies qui sont censées représenter ces valeurs peuvent perdre leur valeur parfois du jour au lendemain. Et quand ça arrive, les choses entre nous deviennent incontrôlables. Les monnaies dévaluées sont incapables de nous rendre la confiance que nous avons perdue envers les autres et envers nous-mêmes. Et une société qui vit cela traverse une forme de chaos indescriptible. On pourrait se rabattre alors sur une autre tradition de l'Évangile, puisque l'argent est aussi problématique comme carburant. Appelons-en à la sobriété, heureuse ou pas, une pauvreté relative pour combattre efficacement notre tendance à accumuler. Ça pourrait être d'une certaine efficacité et il y a assez de textes bibliques qui vont dans ce sens. Certaines communautés religieuses, d'ailleurs, en ont fait un véritable mode de vie où chacun est individuellement démuni, mais où chacun pourtant reçoit sa part de la richesse commune. Démuni, étymologiquement, signifie privé de munitions. Parce qu'entre démuni et monnaie, ça sonnait un petit peu comme ça. Je me suis demandé, c'est pour ça que je suis allé vérifier, si ça n'avait pas la même racine. Que nenni, pas du tout, du tout. Démuni, ça veut dire privé de munitions et pas privé de monnaie ou de ressources. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est plutôt un terme d'origine militaire, être démuni. Il renvoie clairement à l'absence dans nos mains d'un objet agressif ou menaçant qui pourrait servir à attaquer, mais peut-être c'est son ambivalence à nous défendre aussi. Mais ça n'est pas un manque de ressources. C'est ça, être démuni. Eh bien, soyons donc démunis, sans réticence, plutôt que dans la dèche, qui n'est pas une situation enviable. Le problème avec cet idéal de pauvreté plus ou moins volontaire, c'est que dans l'histoire, il l'est rarement. Et c'est qu'il est rapidement perverti. Il suffit de voir le fonctionnement des principales sectes de renommée mondiale. Ce qui les intéresse, surtout, on le sait très bien, c'est la richesse et le pouvoir sur les hommes et les choses. C'est ça qui les intéresse. Elles sont régulièrement épinglées pour leur violence et leur emprise, parce qu'elles sont surpuissantes, richissimes. Elles s'emploient, on le sait, et comment, à broyer tous ceux qui les font vivre. On est la plupart du temps assez loin d'un idéal évangélique de pauvreté volontaire, ou de sobriété heureuse, ou que sais-je. D'ailleurs, la meilleure manière de mettre ces collectifs problématiques hors d'état de nuire est de faire intervenir une brigade financière ou l'administration fiscale, un peu comme Al Capone. Secte ou mafia, ce sont les sous qui les mettent sans dessus dessous. J'aimais bien parce que ça rimait, c'est pour ça que j'ai utilisé cette formule-là, c'était plus élégant que cul par-dessus tête, vous ne m'en voudrez pas. Quand Jésus flaire le piège tendu par les autorités venues tout spécialement pour le coincer, ils sont là pour ça. Il sait qu'il a affaire à des gens qui mêlent habilement richesse et pouvoir au point de les rendre synonymes, de les confondre l'un et l'autre. Ils sont tous les deux des moyens parmi d'autres. Des moyens éminents qui donnent une puissance, une surpuissance, mais ce sont des moyens pour eux. Ils ne sont ni pauvres ni démunis parce qu'ils ont à la fois le pognon et les munitions. Ça rime encore, celle-là je l'aimais bien, mais elle est moins élégante, c'est vrai. Jésus sait qu'Hérode s'enrichit sur le dos de ses sujets et que les religieux s'enrichissent aussi avec toutes sortes d'impôts ecclésiastiques, accumulation de richesses qui ne servira finalement à rien du tout puisque tous seront balayés. Le temple sera détruit par les Romains, la dynastie des Hérodiens disparaîtra au point qu'elle ne laisse aucune trace dans nos mémoires. Il faut les bas-de-pages informés de nos Bibles intelligentes pour nous avertir, nous informer de qui étaient ces gens. C'est ça, être insignifiant. C'est que quand on dit le nom de quelqu'un, ça ne renvoie plus à rien. Jésus a bien compris à qui il s'adressait. À des gens à la fois puissants, dangereux peut-être, et insignifiants. Sa réponse est celle bien connue de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire de rappeler un partage des territoires, un besoin de retracer des lignes claires entre choses de valeurs différentes et même entre des dimensions différentes sans rapport entre elles. Donner à chacune de ces dimensions, semble dire Jésus, l'espace qui lui revient, clairement, de manière distincte et sans empiétement. C'est une séparation des pouvoirs dans le sens où seul l'empereur a besoin du pognon et des munitions. Pour un Dieu à qui tout appartient déjà, à quoi renverrait, que signifierait le besoin de collectionner ou d'accumuler ? Ça n'aurait aucun sens. Pour un Dieu qui se retire suffisamment de sa création pour nous y laisser une place et une vocation de gérant ou de responsable, même défaillant. Que signifierait une prise de pouvoir à un ascendant ? C'est pour rétablir ces vérités toutes simples, ces lignes claires, que Jésus répond habilement à ces riches armés jusqu'aux dents. Jésus fait pourtant davantage qu'une séparation entre deux pouvoirs différents. Il va un peu plus loin, me semble-t-il. Un pouvoir impérial, ou l'un de ses supplétifs provisoires, hein, comme Hérode qui va bientôt disparaître de la scène, un empire ne possède que ce qu'il ponctionne de manière autoritaire. Le Dieu dont parle Jésus ici et ailleurs, dans d'autres paraboles, donne lui, sans compter, un bien inestimable qu'il possède déjà en totalité et qu'il confie à notre responsabilité. Vous voyez la différence des deux démarches ? C'est cela que Jésus rappelle ici. Les deux dimensions ont intérêt à être séparées l'une de l'autre, parce que seule l'une des deux a vraiment de la valeur et un potentiel d'espérance. L'histoire a d'ailleurs plusieurs fois tranché dans ce sens, et on peut même parier, je ne sais pas combien, ça dépend ce que chacun a, bien sûr, mais on peut parier que ça arrivera encore. Partout, y compris dans les églises, dans la nôtre comme dans toutes les autres, nous manipulons de l'argent. Mais ce n'est pas une manière de montrer notre niveau de revenu. On serait vite battu de toute façon, hein, par rapport à d'autres qui sont bien plus nantis que nous. On n'irait pas très loin dans cette compétition. Ce n'est pas une richesse qui se met en vitrine. C'est une manière de rendre, par amour, une partie de ce que nous avons reçu
par amour aussi.
Et cette restitution a pour but de générer du lien et de la confiance. Il n'est pas question pour nous d'avoir un quelconque pouvoir, ça n'aurait pas de sens, ou nous ne serions pas une église. C'est bien ce type de royaume que Jésus explique à longueur de parabole. Un royaume décidément pas de ce monde, c'est vrai, mais dont le monde peut profiter, dès qu'il n'est pas abandonné à ses sales manies, autant dire de temps en temps. Le royaume, c'est une sorte de programme qui explicite cette restitution. Le fait de rendre quelque chose qui est reçu, donné, et qui nous profite. Il faut savoir comment rendre une partie au moins de ce que nous avons reçu avec confiance pour générer autour de nous des liens de confiance sans lesquels il n'est pas de vie possible. C'est ce que nous faisons dans une église, y compris avec l'argent qui y circule. Jésus distingue deux dimensions incompatibles. Il les remet chacune à leur place, c'est vrai, mais il distingue aussi, d'une certaine manière, deux monnaies qui n'ont pas la même valeur. La monnaie du royaume, c'est la confiance. On ne peut ni l'acheter, ni la vendre, mais on peut la faire apparaître et la faire circuler. Amen.